Né à Paris en 1872, Léon Blum fut élu député de la Seine en 1919. Battu en 1928, il fut élu en 1932 député de Narbonne. C'est en 1929 qu'il définit ainsi le socialisme.
De quoi est né le socialisme ? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Le socialisme est né alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège. Il est né de la compassion et de la colère que suscitent en tout cœur honnête ces spectacles intolérables, la misère, le chômage, le froid, la faim, alors que la terre, comme l'a dit un poète, produit assez de pain pour nourrir tous les enfants des hommes, alors que la subsistance et le bien-être de chaque créature vivante devraient être assurés par son travail, alors que la vie de chaque homme devrait être garantie par tous les autres. Il est né du contraste à la fois scandaleux et désolant entre le faste des uns et le dénuement des autres, entre le labeur accablant et la paresse insolente. Il n'est pas, comme on l'a dit tant de fois, le produit de l'envie qui est le plus vil des mobiles humains, mais de la justice et de la pitié qui sont les plus beaux.
Le 6 février 1934, les ligues manifestent dans la rue. La gauche riposte le 12. Léon Blum appelle à la lutte antifasciste.
Il ne laissera pas toucher. Il ne laissera pas toucher à la République qui est son bien. La preuve est faite. La province soulevée tout entière. Paris rassemblée dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris.
Aux élections de mai 1936, le Front populaire l'emporte. La SFIO, avec 149 sièges, devient le premier parti de France. Léon Blum exalte la victoire de son parti.
Cette victoire, une fois remportée, il faut en consolider les effets. Il faut les rendre définitifs. Il faut rendre la France invulnérable aux attaques du fascisme. Et il faut qu'on n'oublie pas. Il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a derrière nous des masses populaires dont nous sommes les mandataires et les interprètes. Des masses populaires auxquelles on n'aurait pas besoin de faire appel deux fois si on s'insurgeait contre leur volonté. Nous avons cependant besoin du temps, car c'est une œuvre de longue haleine. Il faudra durer. Pour durer longtemps, il faudra donner très vite le sentiment de la réussite, car dès que les masses populaires de ce pays auront eu le sentiment de la réussite et du changement, eh bien, je sais qu'elles nous consentiront un large crédit de temps. Et puis je veux vous le dire encore, je ne me présente pas à vous aujourd'hui comme un homme déjà accablé d'avance sous le poids des charges et des responsabilités qui l'attendent. Bien que je les connaisse, croyez-moi, Je ne viens pas ici en vous disant ôtez de moi ce calice. Je n'ai pas voulu cela. Je n'ai pas demandé cela. Si, si, j'ai demandé cela et j'ai voulu cela parce que cela...
Léon Blum revendique la direction du gouvernement qu'il forme le 6 juin 1936. Les communistes le soutiennent, mais refusent de participer.
Le gouvernement de Front Populaire est constitué. Appelé hier à 6h du soir par Monsieur le Président de la République, je lui ai remis, séance tenante, la liste de mes collaborateurs. Le gouvernement se présentera dès demain devant les chambres. Dès aujourd'hui, il veut prendre contact avec le pays. Son programme est le programme du Front Populaire. Parmi les projets dont il annoncera le dépôt immédiat et qu'il demandera aux deux chambres de voter avant leur séparation, figure la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. Il est donc résolu à agir avec décision et rapidité pour les travailleurs de la terre comme pour les travailleurs des usines. Il fera tout son devoir. Il ne manquera à aucun des engagements qu'il a pris. Mais sa force réside avant tout dans la conscience qu'a mise en lui le peuple de France. Et il en réclame aujourd'hui le témoignage aux millions d'électeurs qui l'ont porté au pouvoir. L'action du gouvernement, pour être efficace, doit s'exercer dans la sécurité publique. Elle serait paralysée par toute atteinte à l'ordre, par toute interruption dans les services vitaux de la nation. Toute panique, toute confusion servirait les desseins obscurs des adversaires du Front Populaire, dont certains guettent déjà leur revanche.
Le soir même, Léon Blum présente au Veldiv le premier gouvernement de Front Populaire.
Vote de Paris! Nous avons demandé et obtenu la confiance de la majorité. Et ce soir, nous faisons appel à votre confiance, à vous. Et puisque je fais la revue des nouveautés, j'en veux signaler une qui n'a guère moins d'importance. Nous avons trouvé, je dois le dire, de la part de nos collègues radicaux et de la part de nos collègues de l'Union socialiste et républicaine, nous avons rencontré le concours et l'entente la plus affectueuse et la plus loyale. Nous n'avons pas pu déterminer nos camarades du Parti communiste, nos camarades du parti frère de la classe ouvrière à collaborer avec nous au gouvernement, mais cependant, c'est pour la première fois que les communistes apportaient leur bulletin à un gouvernement en lui témoignant leur confiance dans les termes que Jacques Duclos a portés à la tribune. Nous sommes le gouvernement que vous avez voulu. Nous sommes le gouvernement que vos votes ont contribué à porter au pouvoir. Nous sommes le gouvernement qui ne pourrait pas tomber du pouvoir sans que sa chute porta le plus cruel des coups à toute la classe ouvrière, à tous les partis rassemblés dans le Front populaire. Eh bien, il faut que vous nous aidiez dans notre tâche. Il faut, c'est le plus facile, je vous le dis, que vous nous appuyiez du témoignage de votre force, comme vous le faites ce soir. Il faut aussi que vous ne nous marchandiez pas votre confiance.
À la tribune de la Société des Nations, le chef du gouvernement français exprime sa foi dans l'organisation internationale.
Certes, notre vie publique est ardente, mais les peuples ardents ne sont ni des peuples lâches, ni des peuples égoïstes. Une nation ne s'affaiblit pas, mais au contraire, elle se fortifie quand elle accroît l'intensité de son énergie intérieure. Un peuple est d'autant plus attaché à son indépendance qu'il a plus de raison de la défendre, qu'il vit plus libre dans une société plus juste. C'est ce qui se passe dans la France d'aujourd'hui. La délégation française se sent donc en état de parler d'une voix ferme et tranquillement assurée quand elle se fait ici l'interprète de la volonté de la nation. Cette volonté est claire. Le peuple français veut la paix. Il est unanime à la vouloir. Il la veut si profondément que dans nos polémiques intérieures, le suprême argument des partis les uns contre les autres est de dire « Vous compromettez la cause de la paix, vous attirez la nation vers la guerre. » Sache assurément, libre comme tous les autres peuples, de choisir ses amitiés et de les choisir selon ses affinités politiques, sociales, historiques, ethniques. Il la veut pour tous les peuples et avec tous les peuples, quel que soit leur régime ou leur principe de gouvernement. Mais sa volonté de paix n'est ni une faiblesse abandonnée, ni un refoulement égoïste sur lui-même. La paix telle que la conçoit le peuple français n'est pas la soumission muette à la force. Elle n'est pas l'acceptation résignée du fait accompli. Elle se fonde sur la légalité et sur la moralité internationale. Même si nous voulions nous enfermer dans une conception purement égoïste de nos intérêts, nous ne le pourrions pas. Et quelle est la nation qui le pourrait plus que nous? Il n'y a pas un conflit européen où la France ne risquerait de se trouver entraînée tôt ou tard, bon gré mal gré. La paix, telle que nous la concevons et la voulons, n'est donc pas seulement la paix de la France, mais la paix indivisible de l'Europe et du monde. C'est assez vous dire avec quelle grave appréhension la France envisage la situation actuelle. Le monde présent n'est pas un monde de paix. Je ne recherche pas pourquoi. Je ne recherche pas depuis quand. Le fait, le terrible fait est là. Nous sentons l'atmosphère s'alourdir. nous voyons l'ombre s'étendre. Partout, l'on arme. Et le mystère dont certains pays entourent leurs armements ajoute encore à l'émoi universel. Pour la première fois depuis 18 ans, la guerre européenne est de nouveau envisagée comme une chose possible. Or, messieurs, de tous les dangers de guerre, le plus redoutable est peut-être le sentiment collectif que la guerre est devenue possible. La guerre est possible dès qu'elle est conçue comme possible. La guerre est presque fatale dès qu'elle est conçue comme fatale. Je veux noter un autre symptôme qui ne me paraît pas moins alarmant. Les événements de ces derniers mois conduisent à cette conclusion désolante que les États qui agitent les dés de la guerre et semblent prêts à les jeter sur le tapis s'assurent par là même un avantage, une prime, sur les États fidèles à leurs obligations et qui ont franchement renoncé à la guerre en tant qu'instrument politique ou que moyen de puissance. Résistera-t-on à la contagion de l'exemple? Résistera-t-on à la contagion plus dangereuse encore du succès? Permettez-moi de vous le dire, messieurs. Mes amis et moi, dans notre effort de propagande auprès de l'opinion française, nous ne nous sommes pas efforcés seulement de parer aux dangers immédiats de guerre. Nous nous sommes attaqués de notre mieux aux causes permanentes de la guerre. Nous nous sommes attaqués à l'esprit de guerre. Je veux dire à ces conceptions séculaires de la politique, de la moralité, de l'honneur collectif, sur lesquelles la légitimité de la guerre reposait. Nous y avons réussi, dans une large mesure.
Dès le lendemain des élections, de très importants mouvements de grève paralysent le pays. Le gouvernement va tenter de les désamorcer par la signature des accords Matignon. Le 14 juillet, devant des centaines de milliers de travailleurs qui défilent place de la Nation, Léon Blum déclare
« Citoyens, camarades et amis, nous étions tous ici il y a un an. Tous ensemble, nous avons prêté le même serment. Le serment a été tenu. Il l'a été par les masses populaires. Il l'a été par la majorité parlementaire et par le gouvernement qui sont issus de ce verdict. Il l'a été et il le sera. En échange de notre fidélité, nous vous demandons, et nous vous demandons à tous, votre confiance que vous nous devez tant que nous nous en montrerons dignes. Quand les chambres se sépareront, elles auront déjà traduit en réalité une large part de ce programme commun qui nous a permis de remporter ensemble la victoire électorale. Nous aurons édifié ensemble l'œuvre la plus importante, la plus significative qui ait été tentée dans ce pays depuis les débuts de la Troisième République.
La guerre civile fait rage en Espagne depuis le 18 juillet. Certains s'étonnent que la France ne s'engage pas aux côtés des républicains espagnols. Déchiré entre ses sympathies et la crainte de la guerre, Léon Blum s'en explique le 6 septembre à Luna Park.
Je voudrais vous poser une question que chacun de vous
pourrait se poser à lui-même. Est-ce qu'il y a ici un seul homme, en accord ou en désaccord avec moi, sur la question que je vais traiter? Est-ce qu'il y a ici un seul homme qui croit que j'ai changé depuis 3 mois? Me paraissent à moi en ce moment aussi longs que je ne sais combien d'années, non pas peut-être seulement par l'œuvre accomplie, mais par ce que vous avez effectué de jours sans répit et de nuits sans sommeil, sans trouver la course du temps étrangement lente. Vous savez bien que je n'ai pas changé et que je suis toujours le même. Est-ce que vous croyez qu'il y ait un seul de vos sentiments que je ne comprenne pas et que je n'éprouve pas? Vous avez entendu l'autre soir. Vous avez entendu l'autre soir au Vélodrome d'Hiver les délégués du Front Populaire Espagnol. Je les avais vus le matin même. Croyez-vous que je les ai entendus avec moins d'émotion que vous? Croyez-vous, quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise de Biroun et de l'agonie des derniers miliciens, est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre? Que j'ai été subitement destitué de toute intelligence, de toute faculté de réflexion et de prévision, de tout don de peser dans leurs rapports et dans les conséquences, les événements auxquels j'assiste. Vous ne croyez rien de tout ça, n'est-ce pas? Alors, si j'ai agi comme j'ai agi, si j'agis encore, il est nécessaire d'agir. Alors, il faut bien qu'il y ait tout de même à cette conduite des motifs, peut-être valables, je le crois, en tout cas intelligibles. Vous pouvez, je ne vous demande pas, je sais une confiance aveugle, une confiance personnelle dans tel ou tel individu, mais cette confiance-là, cette confiance de ma constance avec moi-même, avec ma conscience de militant et cette faculté malgré tout de jeter sur les événements un regard empreint de quelque clairvoyance raisonnable, cette double confiance, je crois que vous pouvez tout de même l'avoir en moi.
Roger Salingros, ministre de l'Intérieur, victime d'une virulente campagne de presse, s'est suicidé. Le chef du gouvernement vient à Lille saluer sa dépouille mortelle le 22 novembre 1936.
Chers amis de Lille, vous avez désiré que je parle seul. Au nom de tous ceux qui pleurent avec vous, Roger Salingros. Au nom du gouvernement de la République, dont il était membre. Au nom de ses collègues de la Chambre des députés. Au nom de ses camarades du Parti socialiste. Au nom du groupe parlementaire, de la Fédération Lilloise, de la Fédération du Nord, de la section Lilloise, au nom de la municipalité de Lille, dont il était le chef, et aussi, n'est-ce pas, au nom des millions d'hommes qui, dans le pays entier, tournent en ce moment les yeux vers vous et dont le cœur bat avec le vôtre. En ce moment même, à Paris, un immense cortège se forme sur le trajet déjà légendaire de la Bastille à la Nation pour prolonger celui qui va se dérouler ici tout à l'heure. Chers amis, la France entière souffre avec vous de votre peine et mène avec vous votre deuil. Nous l'avons perdu, comme vous, votre Roger. Et cependant, nous sentons qu'il vous appartenait plus qu'à nous. Militants, députés, ministres, mêlés à toutes les grandes affaires de l'action socialiste et de la vie publique, il était resté votre Roger, le Flamand, le Lillois. Il faut être venu ici, l'avoir vu au milieu de vous, pour le connaître et pour le comprendre tout à fait. Il y avait deux idées qui dominaient en lui, deux pôles autour desquels tout s'ordonnait, son parti et sa ville. Ses qualités maîtresses étaient celles de votre race, le sang-froid, la ténacité, la bravoure, la bonté. Il était maire de Lille à 35 ans. Mais depuis combien d'années était-il mêlé à vos luttes, toujours au rang le plus exposé, le visage toujours découvert? Qui nous eût dit que la méchanceté criminelle des hommes forcerait le cours du temps.